Il n'y a pas de fatalité que nous ne puissions pas vaincre.
Avoir raison avec Jacques Ellul. Juliette Deveau.
Seulement alors, il faut des raisons très profondes pour se mettre à lutter. Il faut avoir des convictions très fortes.
Ellul, c'est un nom atypique, un nom qui sonne étrangement à nos oreilles et qui doit probablement ne rien vous évoquer. Pourtant, ce penseur iconoclaste, à la fois juriste, historien du droit, théologien protestant, a traversé le XXe siècle en se donnant pour mission de penser les enjeux de notre ère moderne et est l'auteur d'une œuvre considérable et originale que l'on redécouvre peu à peu aujourd'hui. En avance sur son temps, Jacques Ellul a été, dès le XXe siècle, un grand penseur de la technique et de ses dérives, mais aussi l'un des précurseurs de l'écologie politique. Comment son œuvre, sa pensée structurée et puissante et ses engagements peuvent-ils nous aider à nous orienter dans notre XXIe siècle marqué par des crises multifactorielles? Comment, en somme, avoir raison avec Jacques Ellul? C'est ce que l'on vous propose de découvrir toute cette semaine. Jacques Ellul est né en 1912 et a traversé le XXe siècle avec l'envie de tout vivre et de tout analyser. Travailleur acharné, il a passé sa vie à décortiquer le monde, guidé par une rigueur intellectuelle rare et un esprit critique particulièrement acéré. À sa mort, en 1994, on découvre l'ampleur de son travail. Il aura écrit pas moins de 60 livres, plus de 1000 articles et s'est exprimé sur à peu près tous les sujets. Alors que les Américains ont découvert et apprécié ses travaux dès les années 60, que le célèbre Aldous Huxley recommandait sa lecture outre-Atlantique, comment expliquer qu'il soit resté si méconnu de son vivant en France ? Comment l'anticonformisme de Jacques Ellul, son rejet systématique des idées largement répandues à son époque, l'ont-ils rendu si visionnaire, si pertinent pour appréhender les grands enjeux du XXIe siècle ? C'est ce que nous allons voir dans ce premier épisode, Jacques Ellul, un penseur du XXIe siècle perdu au XXe siècle.
Au fond, j'ai toujours vainement cherché le levier qui permettrait de modifier fondamentalement notre société.
Et pour revenir sur la vie et l'œuvre de Jacques Ellul, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Ellul. Bonjour.
Bonjour Juliette.
Vous êtes le petit-fils de Jacques Ellul. Vous avez consacré un documentaire à votre grand-père à partir d'archives historiques. Un documentaire intitulé « Jacques Ellul, l'homme engagé » produit en 2016. Et vous êtes engagé dans la conservation et la valorisation des archives de Jacques Ellul depuis des années. Vous participez régulièrement à différents colloques universitaires internationaux et vous avez œuvré à la publication d'inédits de Jacques Ellul ces dernières années. Merci beaucoup d'être avec nous en studio.
Merci beaucoup.
Votre maison, Jacques Ellul, a un nom.
Oui, elle s'appelle La Marrière, d'une origine que je ne connais pas, peut-être de la mare qui est ici, mais à la fin du XVIIIe siècle, elle s'appelait le domaine du Pigeon.
Vous êtes un privilégié, hein, vous avez un superbe parc.
Je suis tout à fait un privilégié, et ça je le sais, je le reconnais, avec... les difficultés que suppose une maison ancienne, mais c'est le privilège du silence, le privilège de l'espace et le privilège pour moi des arbres et de la nature.
C'est une maison typique de la région bordelaise ?
Tout à fait typique. Ça, alors, elle est construite en pierre de la région et d'une façon caractéristique, selon le plan caractéristique, de, au fond, des pavillons de chasse.
Mais vous ne travaillez pas dans votre jardin, hein. Vous êtes un homme de cabinet.
Ça, je ne peux pas travailler dans le bruit. La musique, oui. Je travaille très très souvent en accompagnement de musique.
Vous venez d'entendre un extrait de l'émission Le Bon Plaisir, dédiée à Jacques Ellul, enregistrée et diffusée pour la première fois sur France Culture en 1985. Alors déjà, pour commencer, il faut dire que Jacques Ellul n'aimait pas trop l'introspection. Il revendiquait le fait d'être un homme commun. Et en même temps, quand on voit l'ampleur de son œuvre, près d'une soixantaine de livres et plus de 1000 articles qu'il aurait écrits, on s'est dit que ce n'est pas vraiment un homme commun, un homme ordinaire. Est-ce que déjà, vous pouvez nous présenter cette œuvre ?
C'est une œuvre qui se développe sur deux axes majeurs. L'axe de la critique de la société technicienne qui est en évolution, en perpétuelle innovation, et une œuvre de théologie fondamentale parce qu'il a tout simplement lu la Bible très tôt Et à partir de cette double lecture littéraire à la fois de Marx et de l'analyse de la société du 19e, eh ben, se profile chez Ellul cette volonté de presque démystifier le progrès technique qui est en train de se développer à partir de la révolution industrielle. Mais la lecture de la Bible et des textes lui apprend énormément de choses de l'ordre de la foi et de la révélation. Et à partir de là, il explique que il aura une sorte de mission à réaliser, et c'est ce qui est décliné en fait tout au long de ces livres, c'est-à-dire une œuvre qui a des correspondances dans le domaine de la théologie. On va pas donner la liste des livres, mais évidemment 58 livres, c'est considérable. Il écrivait tous les jours pratiquement en se levant à 6h du matin.
Donc, justement, ce qu'il faut savoir à propos de Jacques Ellul, c'est que c'est un homme qui a beaucoup écrit de son vivant, mais qui a été relativement invisibilisé. Alors, Patrick Chastenay, qui est un grand spécialiste de Jacques Ellul, et Frédéric Rognon, qui en est un autre et qu'on recevra dans cette série, parle d'une forme d'ostracisme. On aurait invisibilisé Jacques Ellul de son vivant. Et peut-être, il faudrait revenir sur les raisons de cette invisibilisation, en tout cas indifférence. Peut-être un premier élément est à chercher du côté du fait qu'il se situe à la frontière de différentes disciplines. Le fait que ce soit un penseur inclassable peut-être est un élément de réponse.
Oui, c'est aussi simplement le fait qu'il n'a pas vraiment bougé de Bordeaux ou de la Gironde. Il a toujours été professeur donc d'histoire du droit et dans l'université de Bordeaux. Il a participé à quelques synodes à Paris, mais il n'a pas vraiment eu de carrière universitaire à Paris. Invisibilisé, c'est-à-dire que à l'étranger, on a coutume de dire qu'il a été ses livres ont été reçus notamment aux États-Unis assez tôt. Hein, vous le disiez en présentation, Aldous Huxley a fait ce travail d'exportation de la technique ou l'enjeu du siècle, qui est un livre qui a trouvé son public en premier aux États-Unis. Évidemment, la société américaine est en pleine société de croissance technicienne, et la société de consommation d'après-guerre est en train un petit peu de formater, on va dire, globalement la population. Et la France, à cette époque-là, n'est pas encore prête à recevoir une critique. Alors, invisibilisée, oui, mais sa réception intellectuelle aux États-Unis arrive quand même à grand fracas.
Dès les années 60, il est en effet lu aux États-Unis. C'est en 64 que la technique ou l'enjeu du siècle est éditée aux États-Unis. Et oui, en effet, c'est parce que déjà la société américaine, elle est confrontée aux problématiques liées à la technique.
Absolument. C'est le contexte économique, le contexte social de cette société qui trouve là une explication. D'ailleurs, le titre, The Technological Society, vraiment apporte toute la dimension, déjà en termes de vocabulaire et de syntaxe, qu'on retrouvera chez Ellul dans toute son œuvre. Hein. Technologie, c'est du grec techné, logo, c'est-à-dire le discours sur la technique. Et c'est non pas les nouvelles technologies aujourd'hui comme qui apparaît en fait aujourd'hui comme un abus de langage, mais le techné, logo, le discours sur la technique est en train d'être un discours de promotion et de on va dire de vanter hein, le progrès technique, est déjà une source de réflexion critique de la part d'Ellul, qui critique finalement le discours qu'on fait sur le système des techniques combinées qui est en train finalement de prendre le pas, on va dire, sur tout un tas de facteurs déterminant l'homme dans une société. Donc le facteur technique est vraiment déterminant, il le deviendra un petit peu plus tard en France et en Europe, et c'est à la suite de quoi il va publier en 77 le système technicien, qui est une évolution, une sorte de mise à jour de cette œuvre, qui se décline sur trois livres, une trilogie.
Mais le fait, en effet, d'être un penseur à la frontière de plusieurs disciplines, parce qu'il s'est intéressé au droit, à l'histoire des institutions, il était aussi intéressé par la sociologie, la théologie, évidemment, et ça lui a permis, en effet, cette interdisciplinarité singularité de s'intéresser à un objet aussi protéiforme que la technique. Et c'est ce que vous évoquiez, le fait qu'il ait été écarté un petit peu de la scène intellectuelle française de son vivant, c'est aussi qu'il était attaché à son territoire et qu'il a décidé de rester à Bordeaux où il est né en 1912. Peut-être racontez-nous son attachement à son territoire.
Oui, ben, c'est-à-dire qu'il a fait toutes ses études à Bordeaux, bachelier à 16 ans, lycée Longchamp, élève qui a effectivement affronté le chômage de son père dès les années 20 et qui est obligé pratiquement de donner des cours lycéens pour nourrir sa famille. Joseph Hellul avait un caractère très intransigeant, avait refusé de fournir des conserves avariées sur le front de la guerre de 14, et à partir de là, il a été licencié de son entreprise. Alors, le jeune Hellul a deux visions à Bordeaux, à la fois la vision de la liberté, l'entière liberté de ce port. Il voulait d'ailleurs devenir officier de marine marchande pour voyager, mais c'est son père qui l'oblige à faire son droit. C'est-à-dire qu'à l'époque, évidemment, les fils sont orientés déjà. Donc l'université de droit devient effectivement un enjeu crucial en termes d'éducation, parce que Hellul va rencontrer des très grands professeurs de droit, il va les citer, et même en 1935, lorsqu'il va se marier avec Yvette Lensveldt, qui est née en Afrique du Sud et qui arrive à Bordeaux, c'est Joseph Benzacar, qui était le maire adjoint de Bordeaux à l'époque, qui va les marier à Bordeaux. Donc il reste très attaché, et à la fois cette maison, cette région, et puis cette nature aussi, parce que l'amitié avec Bernard Charbonneau, oui, évidemment.
Il rencontre Bernard Charbonneau.
Dès les années 30, amitié avec Bernard Charbonneau. Et puis, il y a ces camps organisés dans les Pyrénées, organisés aussi du côté de Biscarrosse, le lac d'Ourthain. Il ne faut pas oublier que, par exemple, la forêt de la Coubre, qui est au nord de Royan, a été un lieu de spiritualité, de création, de stimulation intellectuelle. Hellul se balade dans la forêt, également avec son ami, également avec des étudiants, pour réfléchir, pour organiser l'échange d'idées. Et c'est de là que vient le mouvement du personnaliste gascon, en rupture avec le mouvement tel qu'il était désiré par Emmanuel Mounier à Paris. Il y a déjà cette volonté de décentraliser. Vous voyez, il y a cette rupture. Rester en Gironde, c'est aussi prouver qu'on peut arriver à réfléchir globalement des grands faits de société à partir d'une région qui est en pleine mutation, évidemment.
Écoutez, Jacques Hellul, d'ailleurs, dans l'émission Radioscopie, c'était en 1980.
Je crois qu'il y a un handicap en France qui est presque insurmontable. Vous avez insisté sur le fait que je suis bordelais, que je me suis attaché à Bordeaux, que je n'en ai jamais bougé, que je n'ai pas voulu.
Vous êtes né à Bordeaux.
Je suis né à Bordeaux et que c'est mon lieu, et que je n'ai jamais voulu devenir parisien et faire carrière. Alors, je n'existe pas dans le milieu, n'est-ce pas, où on pense à Paris. Et j'ai eu un journaliste l'année dernière qui est venu à Bordeaux pour m'interviewer et qui m'a dit, mais enfin, est-ce qu'on peut être un intellectuel en dehors de Paris ? Il m'a dit ça. C'est surprenant, pas ? Alors, mais je comprenais très bien. Il y a tout un vocabulaire qui se fabrique à Paris. Je le connais, je ne le parle pas.
Je ne me parle pas, dit Jacques Hellul dans cette émission Radioscopie. Une des raisons aussi qui peut expliquer son relatif effacement de la vie intellectuelle française au XXe siècle, c'est que il va s'opposer à tous les grands courants idéologiques qui animent la gauche aussi pendant ce siècle. Notamment, c'est quelqu'un qui connaît très très bien l'œuvre de Marx et qui va s'opposer, ou en tout cas qui va critiquer les marxistes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet anticonformisme de Jacques Hellul?
Bien sûr, la dialectique de Marx est absolument une grille de lecture essentielle pour Hellul. Donc il va se servir de la méthodologie et des livres écrits par Marx qui identifient le facteur économique comme étant le déterminant du 19e siècle après la révolution industrielle, et poursuivre finalement l'analyse de Marx en dépassant son maître à penser, en déterminant que le facteur technique, c'est-à-dire cette façon de regrouper toutes les actions autour de la productivité, la recherche d'efficacité et l'efficience technicienne, vont devenir le déterminant de cette société qui est en train de se créer. Et alors, il y a une course parce que le système est en train de grandir, son autonomie, son unicité et son auto-accroissement sont en cours, et donc Ellul va mettre à jour tous ses cours chaque année avec une déontologie non intellectuelle remarquable, pour expliciter la vision de Marx à ses étudiants, notamment à Sciences Po, à la faculté de droit, mais aussi proposer une nouvelle grille d'analyse. Parce que oui, étant marxologue, expliquant la pensée de Marx, mais non marxiste, parce qu'il s'aperçoit que les slogans de la gauche le déçoivent. C'est-à-dire, quand on se revendique d'un progrès social ou d'un progrès de l'homme allant de pair avec un progrès des sciences ou un progrès des techniques, et l'une n'est plus d'accord. Donc à partir de là, il va quand même, formuler une démystification des slogans du progrès, tout en posant des analyses alternatives par rapport aux idéologies en cours. Alors évidemment, tous les ouvrages, en pointant, je dirais par jeu intellectuel et par débat, par volonté de contredire, il va pointer les contradictions des grands philosophes français, Derrida, Michel Foucault ou d'autres, en analysant, en faisant des points de comparaison d'une décennie à l'autre, et c'est ce qui ne plaît pas.
Il y a quand même une chose dans son anticonformisme, c'est que ça lui a permis aussi de faire preuve d'un discernement que certains n'avaient pas, ça lui a permis notamment de s'engager dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur son engagement, comment il a été révoqué par le gouvernement de Vichy aussi pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Il était chargé de cours à l'université de Strasbourg dès le début de la guerre. En 1936, il avait assisté à un meeting nazi en 1936. Donc, il avait déjà la méfiance dans cette période qu'on appelle la montée des périls. L'université de Strasbourg était repliée à Clermont-Ferrand. Ses étudiants inquiets subissaient une propagande, disons, de retour en Alsace-Lorraine. Le maréchal Pétain avait certainement publié des tracts pour dire qu'il fallait retourner en Alsace-Lorraine. Et donc Ellul, à la fin d'un cours magistral, dit à ses étudiants de ne surtout pas céder au chantage du maréchal Pétain, et donc de ne pas retourner en Alsace-Lorraine, car ils seront incorporés dans l'armée allemande. Et à partir de là, un de ses étudiants le dénonce, et sous le motif, effectivement, que ils ne font pas confiance au maréchal Pétain. Et puis c'est à partir de là que on fait une enquête. On s'aperçoit que Joseph Ellul, son père, est un sujet de la couronne britannique. Sa femme Yvette est d'origine hollandaise. Donc on trouve les prétextes qui amènent à la révocation. Et donc il est viré de l'université. Et c'est à partir de là qu'il est rapatrié à Bordeaux. On lui trouve une maison, d'ailleurs, qui est une ancienne commanderie de Templiers. Alors, hasard ou coïncidence, en tout cas, il va rentrer en résistance, je dirais, par rapport à un gouvernement de Vichy, et il va trouver...
Il mène vraiment des activités de résistance.
Bien sûr. Il est en relation avec les maquis de Frontenac, Pellegru, Sauveterre de Guyenne. Il est en relation avec le chauffeur de bus aussi, pour faire passer la ligne de démarcation à tout un tas de pourchassés. Il y a un réseau de sauvetage dans la famille Ellul. Et à Martre, c'est un petit village de 100 habitants, Yvette, effectivement, prend son rôle très à cœur. Elle, qui avait fait ses études à Bagatelle en tant qu'infirmière, se met à faire des repas pour les prisonniers russes qui ont traversé toute la France à pied et qui, effectivement, arrivent à trouver la nourriture et du réconfort avant de passer à la ligne de démarcation en zone libre grâce à Ellul, qui devient paysan et qui dira d'ailleurs, après ces deux tentatives échouées de passer l'agrégation en 39 et en 41, en 43, il dira qu'il était plus fier pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale de récolter sa première tonne de pommes de terre plutôt que de passer le concours d'agrégation qui est quand même assez difficile.
Mais c'est un homme qui s'engage, je crois qu'il préférait le terme d'impliquer, il s'impliquait dans des causes. Une autre cause pour laquelle il s'est impliqué, c'est contre la délinquance juvénile sur son territoire. Peut-être que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consistait, cette action.
C'est une expérience tout à fait innovante, qui est au croisement en fait de ses disciplines et de son contact avec les étudiants. Alors il y a toute une réflexion sur les déviants, les marginaux, les blousons noirs, ce qu'on appelle les hippies, les cheveux longs, tous les gens qui sont marginaux et qui n'arrivent pas à s'adapter à cette société technicienne en réalité, ou qui ne veulent pas trouver d'emploi. Ellul considère que il faut pas pratiquer le tout répressif. Tout simplement. Donc, en partant de cette idée, il faut aller sur le terrain des jeunes, c'est-à-dire dans la rue, et il faut arriver à communiquer, à parler, à dialoguer. Et c'est là que la rencontre avec Yves Charrier est redoutable, parce que lui a un talent extrêmement fort pour aller vers ces jeunes qui sont en marge, rejetés, parfois condamnés, et pour en réalité les réorienter de manière souple. Eh ben, il va falloir proposer des choses diverses. Alors, il y a cet exemple, voilà, que je racontais sur le... ils passaient leur temps à balancer des mobilettes dans les carrières de Pessac, et puis Yves Charrier, avec son club de prévention, va les inciter à créer une nouvelle activité et la rendre amusante. C'est la plongée sous-marine. Donc il va commencer à plonger au fond des carrières, à repêcher les mobilettes. On a les mêmes phénomènes aujourd'hui à Marseille avec les trottinettes. Hein. C'est la même chose, sauf qu'à l'époque, c'est assez innovant. C'est-à-dire que le club de prévention de Pessac va ensuite essaimer, et ça va aboutir au CNL, le Comité National de Liaison, CNL-APS, des associations de prévention spécialisées, avec notamment, je crois, l'impulsion d'un sénateur qui s'appelle Bernard Haeckel, qui va faire une interview aussi avec Ellul, pour résumer, on va dire, deux décennies de prévention spécialisée. Et si aujourd'hui, vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui est éduc-spé, tout simplement, c'est une profession qui a été créée par Ellul.
Quelque chose quand même à retenir, c'est que son anticonformisme l'a mené aussi à prendre des positions qui ont pu faire polémique à l'époque et qui peuvent continuer à intriguer un petit peu. Par exemple, en 1985, il va s'exprimer sur l'apartheid en Afrique du Sud. Ça lui a été assez reproché. Est-ce que vous pouvez revenir sur peut-être cette volonté de ne pas être politiquement correct qui a pu le conduire à avoir des postures un peu polémique, disons.
Ah, tout ce qui est de l'ordre de la rédaction des articles de presse et de la propagande de masse va effectivement stimuler chez Ellul une forme de radicalité, une forme de provocation dans le débat pour inciter notamment à avoir des échanges. Alors, il faut imaginer que c'est comme une antenne satellite qui reçoit des informations de partout, notamment de l'Europe, des États-Unis, de la Chine. Il est abonné à des revues qui lui envoie des rapports sur l'évolution des techniques dans tel et tel état. Alors, que ça soit une démocratie ou une dictature, évidemment, l'Afrique du Sud est un exemple qui, à un moment, bénéficie d'une surmédiatisation. Tout le monde s'emballe, effectivement, sur l'apartheid. Et donc, Ellul, par jeu et par provocation intellectuelle, se met à critiquer, effectivement, cette opinion de masse qui voudrait réduire, le conflit politique ou géopolitique à un affrontement civilisationnel ou néocolonial. Voilà, bon.
Et cet anticonformisme l'a donc conduit à écrire sur la technique et à écrire de manière critique sur la technique à un siècle, à une époque où c'était pas forcément très courant de le faire. Et aujourd'hui, sa pensée est redécouverte. Elle a été redécouverte notamment grâce à la parution d'un livre du journaliste Jean-Luc Porquet en 2003, un livre intitulé « L'homme qui avait presque tout prévu » aux éditions du Cherche Midi. Aujourd'hui, les mouvements technocritiques redécouvrent sa pensée. En quoi, justement, sa vision critique de la technique paraît vraiment pertinente aujourd'hui au XXIe siècle?
Alors le titre, oui, l'homme qui avait presque tout prévu, incite à penser ce caractère prophétique avec ce degré d'anticipation. Mais c'est vrai que quand on se plonge dans l'œuvre logique, cohérente, lucide depuis le départ, on s'aperçoit que la méthodologie et l'honnêteté intellectuelle d'Ellul font que il tire simplement le fil du facteur déterminant de la technique, en évoquant d'ailleurs cette différence fondamentale entre la réalité et la vérité. Enfin, ce qu'on nous fait prendre pour des vérités et ce qui est l'ordre de la réalité. Alors là, sur le mouvement technocritique qui redécouvre la pensée d'Ellul, évidemment, la crise spirituelle, s'est doublé effectivement d'une accélération de l'agrandissement du système technicien autonome qui fait que il n'y a plus d'inventions notables, il n'y a uniquement que des combinaisons de facteurs techniques qui se croisent et s'interconnectent. Et à partir de là, l'homme et sa liberté ou sa volonté d'agir se trouvent enserrés dans un système qu'il est difficile, on va dire, de voir globalement. La grille de lecture de Ellul est toujours valable. Et c'est ça que les étudiants et les personnes aujourd'hui redécouvrent. C'est-à-dire qu'une grille de lecture qui était valable dans les années 40, 50 et après-guerre reste toujours d'actualité. Il est très difficile aujourd'hui pour des penseurs, pour des philosophes, pour des hommes politiques ou même des scientifiques de remettre en question la validité de la grille de lecture d'Ellul parce que tout simplement le développement des techniques s'est fait de manière exponentielle et aujourd'hui... dans tous les domaines, il faut arriver à être plus rapide, avoir toujours un petit peu un coup d'avance sur l'échiquier du développement aussi des sciences. Mais encore une fois, il n'est pas techno-pessimiste. Il propose toujours une forme de distanciation en disant que tout progrès technique se paye et se paye parfois d'un certain nombre d'avantages, ce qui est le cas pour le domaine de la santé, mais parfois aussi d'un cortège d'inconvénients et d'un cortège de nuisances et qu'il est très compliqué d'appréhender parce qu'il faut simplement comprendre que parfois certains problèmes de notre société n'ont pas de réponse technique et appellent à une réponse qui est d'un autre ordre.
Quand a décidé de faire une agrégation de droit romain, ça a été effectivement une tendance un peu ironique et anarchiste, dans une période où je devenais extrêmement hostile à la société telle qu'elle était. Je me suis dit, je vais devenir professeur de faculté, mais je veux que ça ne serve à rien. Et j'ai choisi le droit romain parce que j'avais très fortement le sentiment que enseigner le droit romain aux étudiants, c'était leur enseigner quelque chose qui ne leur servirait jamais à rien. Donc c'était purement gratuit.
C'était de nouveau un extrait de l'émission Le Bon Plaisir, enregistré en 1985. Alors on entend qu'il plaide pour une forme d'inutile face à l'efficacité technicienne. C'était cela sa voix pour lutter contre la société technicienne ?
Vous avez raison de dire que l'inutile, la gratuité, comment démystifier l'argent, effectivement, Ellul est iconoclaste en proposant de le donner. Évidemment, ça va à contre-courant. Et puis, l'humour, il avait été entouré d'un certain nombre d'étudiants avec qui il avait de profonds dialogues. Il y avait un sens, effectivement, de la répartie qui était coriace. Donc, sur l'inutilité et l'art, il est à la recherche, d'un certain nombre de portes de sortie. Évidemment, le personnalisme était une troisième voie dès les années 30 entre le libéralisme individualiste et le collectivisme économique, mais la poésie...
Oui, on sait pas et on sait peu que Jacques Ellul écrivait de la poésie.
On le saura bientôt sur la redécouverte de sa poésie, qui est son lien tout à fait littéraire et intime. Et un jour, il y aura peut-être une émission qui s'intitulera Jacques Ellul, un grand poète français, influencé par Saint John Perse, Victor Hugo, Stéphane Mallarmé, Charles Péguy, évidemment. Donc il y aura encore de la matière à dire sur Ellul, ça n'est pas terminé.
Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle. Le bateau qui revient.
Et merci beaucoup, Jérôme Ellul, pour vos éclairages précieux et merci d'être venu de Bordeaux pour participer à cette émission. Et un grand merci à Manouchak Fachaï et à Margot Page à la réalisation de cette émission et à Ludovic Auger à la technique.
Des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus forts que les enfants qui racontent les guerres et plus forts que les grands. Ils nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement.